à la table du déjeuner et en qui, pour tromper sa douleur du menu, il lâcha une des plaisanteries étranges dont il était coutumier, du foie de jeune fille, j'espère, la viande la plus tendre et la plus succulente. Sa femme le regarda, apitoyée, vaguement inquiète. Elle lui montrait depuis longtemps de l'estime et de la soumission, comme elle l'avait faite à son père, mais le voir parfois si douloureux, si étrange, lui donnait un sentiment curieux, entièrement nouveau pour elle, où se mêlaient tendresse et dégoût. Que sait-elle, bon Dieu, elle ne sait rien. Son père aurait compris, pauvre fille. Il se leva brusquement, jeta au feu un second journal, et resta appuyé au manteau de la cheminée en se tenant le front. Les flammes, brèves et sèches, éclairèrent un instant son visage fatigué d'une lueur de sabbat. Augustin, qui dînait avec les internes à deux pas de l'hôpital, s'interrogeait sur Alcossé. Il avait eu sûrement un père et une mère. Comment était sa mère? Brune comme les femmes sur lesquelles il se retournait sur le boulevard, c'était trop facile. Il les imaginait tous deux dans un petit cimetière cubain. « C'est peut-être d'être loin des morts qui le rend curieux », pensa Augustin. « Mais moi aussi j'en suis loin. Mon père va toujours seul au Père Lachaise. Il me parle de ma mère en l'appelant Florence. Je suis curieuse aussi. » Et tout d'un coup, au milieu des rires, des lumières, plongé dans les odeurs de brasserie, l'envie le prit d'être heureux. Cet Romain, l'Académie de médecine siège non loin des bords de la Seine, à deux pas de l'École des Beaux-Arts. Certains prétendent que ce voisinage n'a rien d'innocent, non seulement les planches de Vézal ont leur beauté plastique, mais encore la médecine repose-t-elle davantage sur le génie que sur la méthode. Et d'ailleurs, le fait pour cette institution d'être reléguée derrière l'Institut, assez près pour jalouser, assez loin pour ne pas déranger, un peu comme des enfants à leur table à côté de la table des grandes personnes, indique qu'il lui reste quelques degrés à parcourir sur l'échelle sociale. Le premier regard ne dément pas cette impression. On pousse une lourde porte en fer sertie de glace dépolie pour découvrir un rôle de petite dimension, dévoré par un escalier monumental à l'allure de névé, qui s'élargit en descendant et paraît s'écraser sur le sol. Une loge de concierge permet d'observer discrètement les vieillards qui tentent quotidiennement l'ascension, sous l'approbation muette de leurs ancêtres montés en buste, la canne en guise d'alpenstock. Les bustes, en effet, sont partout, dans les escaliers, dans la bibliothèque, dans l'amphithéâtre et jusque dans la salle de réunion la plus reculée, celle, perdue au bout d'un couloir poussiéreux, où les femmes de charge ont découvert, peu avant une séance, un académicien mort que personne n'avait réclamé depuis une semaine. L'académie n'est ouverte que le mardi, jour de séance. Il y a la Péroni, premier chirurgien de Louis XV romain, la bouche dure et le regard si moderne que sa perruque en paraît déplacée. Alphonse Lavran, costume de médecin colonial avec brandebourg surmonté d'une barbe grise surmontée d'un lorgnon, et cet empilement a découvert l'hématozoaire du paludisme. Pierre-Joseph Dezeau, l'ami de l'enfant du temple, l'air d'un Mirabeau de la médecine, bouche libertine, nez révolutionnaire et poitrine avantageuse. Marc-Antoine Petit, chirurgien-major de l'hôtel Dieu de Lyon, qui souligne. Zbertin et Pasteur, et Tarnier, et Malgaigne et Velpeau, la grande famille de la souffrance, prise dans le marbre ou le plâtre comme dans la glace. Au premier étage, au débouché de l'escalier solennel, on se croirait au foyer d'un opéra de province. C'est la salle des pas perdus. Tendue de velours rouge, semée de fauteuils et de banquettes Napoléon III romain, elle ouvre par une série de portes en demi-cercle sur l'amphithéâtre de l'Académie. D'aimables vieillards y méditent, y manœuvrent jusqu'à la mort et peut-être les manifestations d'âpreté propres au grand âge retardent-elles le dernier instant. L'âge les a rejoints, a fondu leurs qualités et leurs défauts. On leur trouve des gestes trop lents ou trop rapides. On les voit envahis par eux-mêmes, les plus jeunes en plaisantent et dissimulant leur inquiétude. Pourtant on respire à cet endroit le charme des époques passées. Les vieillards sont comme ces flacons débouchés dont parle Baudelaire, chaque génération goûte à leur contact le plaisir amé de la nostalgie. Ici celle de Lacombe a regretté Couvelaire, celle de Martel Babinski, celle de Péan Larrey. un regret sans fondements et peut-être sans objet, sans force aussi, un regret d'homme de progrès, mais suffisant pour faire rêver, et donner de l'indulgence pour les anciens. Philippe Pinel se demande si l'on peut concevoir une passion quelconque sans l'idée d'un obstacle opposé à l'accomplissement du désir. C'est un peu le Buffon de la médecine, il classe les fièvres en 6 ordres et dresse un immense tableau nosologique. En 1793, il libère les aliénés de leur chaîne. Deux vastes compositions ont immortalisé cet instant. Sur la première, on le voit au milieu des folles de la salpêtrière, l'air d'un bourgeois, le ventre dépassant du gilet mal fermé, le chapeau de travers, la main à hauteur de poitrine tenant une canne. À ses pieds, une folle assez jolie, coiffée d'un petit bonnet, baise l'autre main. Sous l'œil réprobateur d'un infirmier sanglé dans un tablier, un aide enlève les chaînes d'une pauvre fille à la Rousseau. À quelques pas, sous un portique en chêne foncé, d'autres malheureuses, tourmentées, indifférentes, vautrées par terre d'autres folles. Le second tableau est plus classique, si la scène est à peu près la même. L'action cette fois se passe à Bicêtre. Cette fresque-là occupe un mur entier de la salle des pas perdus. Il arrive qu'on la regarde longtemps. Le geste de Pinel est plus, en effet, qu'un geste d'humanité.